Écho d'économie, Jocelyne Moussaou.
Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité économique. L'équipe d'Écho d'économie est là et c'est Berry Franklin Luchaka qui nous fournit les nouvelles.
Malaise à la société de télécommunications Tigo. Le ministre du Travail réhabilite les employés licenciés, mais Tigo demande encore du temps pour étudier le dossier. Daniel Tamizri nous fait le point dans deux minutes. Et puis, la délégation syndicale nationale de la Société nationale des chemins de fer du Congo rassure les agents de la direction Nord qui iront en retraite dans les tout prochains jours. C'est un reportage signé Julien Niamouni à suivre dans la seconde partie de cette émission.
La seconde partie de cette émission reçoit Silène Almeras Martineau, coordonnatrice volet environnement des affaires et gouvernance économique au programme des Nations Unies pour le développement. Berry, l'ambassade de la RDC en Ouganda sollicite du gouvernement central l'autorisation d'ouvrir deux consulats.
Jean-Charles Okoto pense que cette ouverture permettra de lutter efficacement contre la fraude de bois et de l'or qui quitte frauduleusement l'est de la RDC pour être vendu ou en transit en Ouganda. Il parle principalement de l'ancien consulat de Kasese se trouvant en face du territoire de Beni dans le Nord Kivu et un autre à Arua en face du territoire congolais de Aru en province orientale. Écoutez Jean-Charles Okoto, micro de Jean-Paul Bassila.
Tout ce qui est bois, tout ce qui est or, le Congo est en train de beaucoup perdre. Une chose est vraie, n'importe qui est libre de pouvoir acheter l'or, mais ce que nous demandons est que tout soit régularisé pour que le gouvernement congolais se retrouve, parce que le produit vient de son territoire. Nous avons déjà écrit à l'hiérarchie pour que nous puissions ouvrir le consulat qui était hier à Kasese et puis un autre consulat à Ao. La réouverture de ces deux consulats va nous faciliter la tâche pour pouvoir y veiller.
Les agents de l'usine Plastica à Kinshasa ont provisoirement repris le travail aujourd'hui.
C'est après deux jours d'arrêt de travail observé depuis le lundi dernier, un arrêt de travail qui a occasionné un manque à gagner d'environ 100 à 150 000 dollars américains, affirme le président de la délégation syndicale. Leur revendication porte beaucoup plus sur le réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti par rapport au taux du jour. Edo Makilele précise que la délégation syndicale et l'employeur ont signé hier un protocole d'accord dans lequel l'employeur s'engage à revoir la paye en fonction du taux du jour et l'employé reprendre le travail. Les travailleurs ont déjà respecté leur part. Reste maintenant que l'employeur donne des assurances liées au SMIG. A noter que c'est demain que l'employeur va décider du sort des employés.
Et puis, il y a rareté de viande sur le marché à Bukavu.
Cette rareté qui s'accompagne d'une montée fulgurante du prix du kilo de 3500 francs à 5000, c'est le prix du kilo au grand marché de Kadutu. À l'origine de cette situation, le Rwanda qui vient d'interdire l'exportation des vaches vivantes vers la RDC. Il exige désormais que les opérateurs économiques congolais aillent acheter la viande des vaches abattues sur le sol rwandais. Une situation qui inquiète beaucoup la population, car à l'abattoir public de l'Electa, 70 à 100 vaches achetées par jour sont fournies par les producteurs rwandais.
Et Berry, on s'approche des fêtes, des fins d'année, ce sont les guirlandes, sapins et pétards.
Le maire de Matadi interdit l'importation et la vente des pétards dans la ville. Marc Nzeidio l'a fait savoir hier mercredi aux opérateurs économiques au cours d'une réunion qu'il a convoquée dans la ville portuaire. Toute personne qui s'oppose à cette décision s'exposera à des poursuites judiciaires, a-t-il poursuivi. Et cette décision vise, selon le numéro 1 de la ville de Matadi, à protéger la vie des hypertendus, les cardiaques et autres malades qui ne supportent pas ces explosifs.
La nouvelle économique au bout du fil.
La nouvelle au bout du fil à Kinshasa, Daniel Tambizoni, vous êtes devant le siège de la société des télécommunications Tigo. Daniel, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale vient de réhabiliter les agents licenciés de Tigo et dont le processus de licenciement n'avait pas été suivi correctement, mais il se pose des problèmes. Quel est l'essor de ces travailleurs?
Disons, Jocelyne, la soixantaine des agents de Tigo licenciés à la deuxième moitié du mois de septembre sont toujours en mal de connaître leur sort. Vont-ils réintégrer l'entreprise? Vont-ils bénéficier de leurs indemnités de sortie? En tout cas, les discussions entre l'intersyndical des agents Tigo et l'employeur se sont encore poursuivies aujourd'hui. Et ce n'est pas encore très clair pour le moment, Jocelyne. Pour un syndicaliste que nous avons rencontré au sortir de la réunion, l'employeur aurait sollicité un délai de 2 semaines. Le temps pour lui de voir à l'interne quelles dispositions prendre pour la réintégration ou non de ses agents, 61 au total. Mais le directeur des opérations de Tigo, M. Abdelatif, que nous avons contacté, nous a dit pour sa part que le dossier était clos et que Tigo aurait agi conformément à la loi congolaise. Cela veut dire que ses agents n'ont plus de place chez Tigo.
Dans ces cas, Daniel, que devient la décision du ministre de Travail?
Cette décision du ministre devient ce qu'elle est devenue, on peut la contourner, on peut s'en passer. Eh bien, nous avons voulu savoir pourquoi il y a eu une sorte de contradiction autour de cette décision du ministre du Travail, parce qu'il faut noter qu'un arrêté du ministre du Travail accordait à Tigo le droit de licencier ses agents, et un autre est venu l'abroger. Et donc, au sujet de cette question, Ferdinand Cambéré, qui n'est d'ailleurs pas au pays, nous a dit avoir lésé sa première décision du fait que Tigo la brandissait comme prétexte pour bloquer tout processus de négociation, ne respectant pas ainsi le processus de licenciement.
Merci beaucoup, Daniel Tombizoni. Bonne soirée.
Merci, Jocelyne.
Écho, reportage. C'est plutôt les informations internationales que nous allons prendre. Berry, le Mozambique a besoin d'investir plus de 1 milliard de dollars par an.
Dans les 10 prochaines années, dans l'objectif de moderniser ses infrastructures publiques afin qu'elles atteignent le niveau de celui de la plupart des pays en développement, selon la Banque mondiale. Le pays consacre actuellement 700 millions de dollars annuellement pour améliorer les routes, les transports et l'assainissement, ajoute la Banque mondiale.
En Algérie, les experts préconisent l'imposition d'une loi pour la réduction de consommation de carburant.
Cette loi devra obliger les concessionnaires et les constructeurs à fournir toutes les spécifications sur la quantité de carburant consommé chaque 100 km. Le ministre algérien de l'énergie affirme par cette occasion que la consommation nationale de carburant a atteint les 11 millions de tonnes en 2008, soit 1 million de tonnes de plus que l'offre disponible localement. La différence a été importée et les prévisions font état d'une consommation de 15 millions de tonnes d'ici 2019.
Merci beaucoup Betty Franklin Lucheka pour ces informations en international. Voici la deuxième partie de Écho d'économie. Écho, reportage. À Kananga, au Kasaï occidental, la délégation syndicale nationale de la Société nationale de chemin de fer du Congo rassure les agents de la direction nord qui iront en retraite dans les toutes prochaines semaines. Éco-reportage, Julien Nyamouini.
L'avenir des agents de la SNCC qui vont en retraite est un peu plus clair. En tout cas, c'est ce que déclare Oscar Rachidi, vice-président de la délégation syndicale nationale de cette entreprise. Le gouvernement a donné son accord sur le dossier de financement de la SNCC dans son volet de la retraite. 20 millions de dollars seront donc débloqués pour financer la retraite par la Banque mondiale. Oscar Rachidi.
Le dossier de pensionnable était bloqué au niveau du gouvernement parce que la Banque mondiale conditionner, n'est-ce pas, le paiement par la signature, n'est-ce pas, du gouvernement dans le protocole d'accord. Donc, il fallait que le gouvernement puisse approuver le protocole d'accord qui était signé entre la délégation syndicale et les experts de la Banque mondiale. Mais, chose faite, parce que le président de la République lui-même s'est impliqué lors de sa visite à la SNCC à Lubumbashi.
De son côté, la Banque mondiale a dépêché à Kananga ses experts. L'objectif est précisé ici par le vice-président de la délégation syndicale.
Il y a aussi la présence des experts de la Banque mondiale qui sont venus aussi voir la présence des pensionnés et voir là où pouvait être logé, n'est-ce pas, l'argent des pensionnables. Voilà, donc on a donné ces messages à tous les pensionnés et ils sont contents.
Près de 2000 agents de la SNCC sont concernés par cette mesure. Quant aux arriérés des salaires, des réductions ont été opérées par l'acquisition des maisons ou encore des terrains dans le domaine de la SNCC. Fini donc des remous dans les rangs des retraitables. Julien Nyamouini, Kananga, Radio Okapi.
L'entretien de ce soir. L'entretien de ce soir, c'est avec Silène Almeras Martineau, coordonnatrice volet environnement des affaires et gouvernance économique au programme des Nations Unies pour le développement. Vous organisez avec le centre d'arbitrage à partir de ce lundi une formation nationale en médiation commerciale. En quoi consistera cette formation?
Donc cette formation, qui est la première du genre organisée en République démocratique du Congo, vise à développer des services de médiation commerciale adaptés aux petites et moyennes entreprises, qui sont le poumon de l'économie congolaise, mais aujourd'hui manquent cruellement de moyens juridiques pour la résolution de leurs litiges.
Que doivent normalement faire ce service de médiation commerciale?
Comme vous le savez peut-être, la médiation fait partie des modes alternatifs de résolution des conflits. C'est donc une alternative au procès soumis aux juridictions de l'État. Cette alternative consiste à désigner des personnes privées que les deux parties du conflit vont charger de juger leurs différends. Et donc cette personne est un tiers neutre, impartial et indépendant, le médiateur.
Et donc vous avez ressenti un certain besoin dans ce sens-là?
Voilà, tout à fait, puisque la médiation est une solution vraiment adaptée aux petites et moyennes entreprises dans le sens qu'elle représente une source d'économie en termes de temps, d'argent et d'énergie. Et c'est donc essentiel qu'il existe aujourd'hui en République démocratique du Congo des services de médiation commerciale adaptés aux besoins des petites entreprises. Il y a aujourd'hui au Congo deux centres nationaux qui dispensent des services d'arbitrage et de médiation commerciale. Donc il s'agit du CAC, le Centre d'arbitrage du Congo, et du CENACOM, le Centre national d'arbitrage de conciliation et de médiation, qui a été créé sous couvert de la FEC en 2007. Et donc, ces deux centres dispensent déjà des services d'arbitrage et de médiation, mais on constate aujourd'hui, malgré tout, que la médiation est très rarement utilisée par les entreprises pour régler leurs litiges. Et cela semble presque être une aberration quand on sait que la médiation est un processus naturel, ancestral, dans la plupart des pays africains, à l'instar du célèbre arbre à palabre. Voilà. Et donc nous cherchons aujourd'hui à donner à la médiation sa place dans le règlement des conflits commerciaux.
Et vous dites que cela s'inscrit dans un volet d'amélioration du climat des affaires.
Voilà, tout à fait. Puisque donc les programmes des Nations Unies pour le développement espèrent que ces journées de formation resteront inscrites dans l'histoire du développement de la médiation en RDC et qu'elles permettront vraiment à tous les participants de devenir des ambassadeurs d'un mode alternatif de résolution des conflits et de promotion de la médiation commerciale au service des PME.
Et qui participe à cette formation?
Alors, donc, il y aura une trentaine de participants, de Kinshasa, mais aussi de Bukavu et de Lubumbashi, qui sont autant des juristes et des avocats que des représentants de la société civile, des syndicalistes, des travailleurs sociaux. Voilà.
Quelque chose à ajouter, peut-être?
Alors, bah, écoutez, on vous encourage tous à suivre de plus près le développement de la médiation au Congo. Et on espère que cette première formation ne sera que le début d'un processus de développement de la médiation.
Silène Almeras Martineau, je vous remercie. Écho d'économie prend fin ici. La prochaine émission, c'est demain à 18h15. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Bonne soirée.